Merci.
Donc, quelle bonne nouvelle ce matin. En fait, vous allez recevoir une exhortation de la Bible et une leçon en anglais. On verra. Et le moyen d'audience disparaît. Non. Le sujet de cette exhortation, c'est tel que je suis. Et sans rien dire à Pierre, il a bien choisi les chansons ce matin. Tel que je suis. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? En fait, je voudrais vous donner un peu de l'histoire de cette chanson, parce que c'est une chanson très, très bien connue aux États-Unis, et peut-être en Angleterre, je ne sais pas. Mais en fait, l'histoire de cette chanson, peut-être l'histoire et les mots français et aussi les mots anglais, peuvent vous aider, peuvent vous encourager à trouver une relation plus proche au Seigneur. Donc, je vous encourage d'écouter bien et de considérer les mots de cette chanson. En fait, en anglais, on dit « just as I am », ça c'est la traduction. Et en fait, c'est exactement les mêmes mots en anglais, en français pour le titre de cette chanson. Voici l'auteur qui a écrit le poème qui est devenu les versets pour cette chanson, la strophe. En fait, elle était une jeune Anglaise qui avait une très très bonne réputation pendant sa jeunesse. C'est-à-dire, elle était toujours heureuse, toujours joyeuse. Elle a eu une très très belle vie pendant sa jeunesse. Mais à un certain âge, peut-être d'un trentaine âge, je ne sais pas, mais comme adulte, elle est tombée malade en 1822. Et elle a trouvé soudainement, elle n'aimait pas socialiser avec leurs amis, elle restait dans la maison tout le temps, donc elle n'avait plus d'amis parce qu'elle était coincée dans la maison. Et donc elle était en désespoir, on peut dire. Parce que sa vie a changé, elle était triste à cause de cette maladie. La maladie n'est pas très sérieuse parce qu'elle a eu une très très longue vie, donc elle n'était pas en train de mourir, mais elle était coincée dans la maison à cause de la maladie. Donc, elle demandait à un homme, on peut dire un prêtre ou quelqu'un religieux, en désespoir, elle cherchait une solution, elle cherchait Jésus, mais elle ne savait pas comment trouver Christ. Et donc, elle a posé la question à César Malin, et comment puis-je trouver Christ? Ça, c'est la question qu'elle a posée. Et sa réponse, il dit, viens comme tu es. Ok. C'est profond, et c'est simple. Et elle pensait à ça. Puis, on peut dire, pendant les ans qui suivaient. Son frère, Charlotte, le frère de Charlotte, il est prêtre dans l'église anglicane et il organisait un projet pour gagner les fonds pour son paroisse. Et il a fait toutes les choses qu'il y a beaucoup d'églises qui font les choses pour gagner l'argent, pour payer les frais de l'église. Et Charlotte a contribué à quelque chose. Elle a écrit un poème de 6 strophes qui était devenu une chanson. Elle a vendu la chanson pour le copyright. Je ne sais pas le mot français. Ça existe en français. Copyright. Donc elle a vendu le copyright et elle a gagné plus d'argent que son frère a gagné avec tout ce jeu et tout ça. Et donc, et c'était en 1835 qu'elle a écrit cette chanson. Et voilà, la chanson a été écrite bien sûr en anglais. Mais, et maintenant, la chanson, c'est une des plus bien connues chansons religieuses aux États-Unis. Donc, moi, je l'ai chantée depuis mon enfance. Je le sais par cœur en anglais. Mais ça nous mène à la question, ok, tel que je suis, mais que suis-je? Qu'est-ce que tu es? Si tu approches à Jésus tel que tu es, donc qu'est-ce que tu es? Une bonne question. Tel que je suis, en fait, dans la Bible, il y a un exemple, une situation où il y avait deux hommes qui se présentent devant Dieu tels qu'ils sont, tels qu'ils étaient. Mais qu'est-ce qu'ils étaient? En fait, Luc chapitre 18, verset 10, il dit, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien publicain, c'est quelqu'un qui reçoit les impôts et qui demande les impôts des autres. Ceux qui passent, ils collectent les impôts. Donc, il n'était pas populaire. Il était pêcheur. Et les publicains, ils ont une très, très mauvaise réputation parce qu'ils ont eu l'habitude de collecter plus de ce qu'il était dû. Et donc, et le reste va dans la poche du publicain. Et donc, ils étaient très riches, mais avec extorsion et en volant l'argent de la population. Donc, le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même contre le publicain. » Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Donc, tel que je suis, qu'est-ce que je suis? Que suis-je? Je suis pécheur. Et en fait, mais dans les yeux de ces deux hommes, en fait, si tu as posé la question, qu'est-ce que tu es, à ces deux personnages, à ces deux hommes qui arrivent au temple, si tu as posé la question aux pharisiens et tu dis, qu'est-ce que tu es, qu'est-ce qu'il va répondre? Il va répondre, ah, merci d'avoir demandé. Je ne suis pas comme les autres hommes. Je ne suis pas un pécheur, je ne suis pas comme ce pécheur-là, comme le publicain. Moi, je suis juste et je suis un bon homme. Et donc, oui, je suis en bonne forme. Mais tout ce qui chante la chanson telle que je suis, c'est pour la raison d'avouer devant Dieu que je suis pécheur. Et si tu es prêt à avouer que tu es prêt, pécheur, tu es prêt à avoir une relation avec Dieu. En anglais, on peut, en fait, ce sont les deux premières lignes de la chanson en anglais, et c'est bien traduit en français. En anglais, on dit « Just as I am, without one plea, but that thy blood was shed for me », c'est-à-dire, le mot « plea » en anglais, P-L-E-A, c'est-à-dire, imaginez si tu étais devant le juge. Tu étais attrapé dans un crime et donc tu es bien coupable. Tu étais attrapé. En anglais, on dit avec les mains rouges. Est-ce que ça existe en français? Tu es attrapé en cours de commettre la crime. Tu étais attrapé avec les mains rouges. OK. Donc, tu étais attrapé. Donc, c'est sûr que tu es coupable. Et maintenant, tu es devant le juge. Qu'est-ce que tu vas dire? Oh, mais je suis innocent. En fait, j'étais fou, donc... Pas coupable, pas responsable. Oh, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Je suis en train de me défendre contre une oppression. Oh, c'est un accident. C'était en ignorance. Il y a des autres circonstances qui justifient ce que j'ai fait. Oh, c'est pas si mal. Il y a des autres qui sont pires que moi. Oh, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup d'excuses que l'on peut offrir devant le juge. Mais si tu es bien attrapé, qu'est-ce que tu vas dire? Ça, c'est la question. Et si tu es attrapé devant le juge, et si le juge est le Dieu de l'univers, qu'est-ce que tu vas dire? Il n'y a rien à dire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu peux dire? Et donc, c'est ça que Paul dit. Nous savons que tout ce que dit la loi est ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Toute bouche soit fermée. Il n'y a pas de réponse devant le juge. Tu es coupable. Et donc, la bouche fermée. Donc, c'est-à-dire, en anglais, without one plea, c'est-à-dire sans excuse, sans rien dire devant le juge, parce que je ne peux rien dire. Et donc, en français, on dit, sinon, ton sang, sans rien à moi, je n'ai rien que je peux présenter au juge pour me justifier. Sauf une chose. Ah, il y a une chose que je peux présenter devant le juge. Pas d'excuse, pas de justification. Tout ce que je peux présenter devant le juge, c'est le sang de Jésus. Et je peux dire, à la fin, quand je suis debout ou au genou devant Dieu, à la fin, je peux dire, je n'ai pas d'excuse, mais j'ai le sang de Jésus. Et c'est ça qui me justifie. C'est la seule chose. Donc, voilà. Il n'y a point de distinction quand tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Donc, par son sang qui me justifie et rien d'autre. Il n'y a pas d'autre excuse, il n'y a pas de justification. C'est le sang de Jésus qui me justifie et c'est tout. Il faut plus de mots en français pour dire la même chose en anglais. Donc, désolé. En fait, il y a une deuxième strophe qui était écrite par Charlotte Elliott qui dit « Just as I am, poor, wretched, blind, sight, riches, healing of the mind, yea, all I need in thee to find, O Lamb of God, I come, I come. » C'est-à-dire en français, « Tel que je suis et que suis-je, pauvre, misérable, aveugle, et j'ai besoin de trouver en toi la vue, les richesses, la guérison mentale. Et donc, je viens à l'agneau de Dieu. » En Apocalypse chapitre 3, verset 15, il y avait une église où il y avait des gens qui étaient bien riches, en bonne forme, bonne santé, Et en fait, qu'est-ce que Jésus a dit à cette église? Je connais tes œuvres, et je peux poser là, je connais tes œuvres. Est-ce que ça te donne le confort ou la crainte? Si Dieu dit ça à toi, je connais tes œuvres. Ah oui, bon, c'est bon que Dieu connaît mes œuvres. Ou c'est, Dieu connaît mes œuvres. Est-ce que c'est bon ou mal? C'est à toi de décider. Mais Jésus dit, je connais tes œuvres. Et c'est moi parce que je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te verrai de ma bouche parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et ça, c'est l'origine de cette son anglais. Ça n'existe pas dans la chanson, je pense, en français. Mais en anglais, il y a une strophe qui parle des mots qui viennent d'Apocalypse chapitre 3. C'est-à-dire, il faut bien évaluer toi-même. Il faut bien comprendre la condition où tu te trouves. Parce que si tu penses que je suis riche, je n'ai pas besoin de beaucoup de choses, je suis en bonne forme. Donc, si on commence à penser comme ça, on pense qu'on n'a plus besoin de Dieu. Parce que je suis en confort, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Donc, pas de nécessité de penser aux choses spirituelles. Mais en fait, Jésus, il dit, je connais tes œuvres. Et il faut que tu comprennes que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc, pour bien comprendre notre situation spirituelle, il faut comprendre que les choses physiques ne sont pas ce qui sont importants. Il faut comprendre notre condition spirituelle. Et ça peut être très, très différent que notre condition physique. Je viens, qu'est-ce que ça veut dire? Je viens vers l'agneau de Dieu. Jésus, en fait, il a invité tous à venir vers lui. Jean chapitre 6, il dit, « Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Il faut venir à Jésus. Bon, c'est simple, ça c'est l'évangile. Il faut venir à Jésus pour trouver le salut. Oh, c'est simple. Mais la question c'est, qui est appelé par Jésus pour venir vers lui? Qui est appelé? Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est important de comprendre ici que Jésus n'appelle ceux qui ont déjà résolu tout le problème. Ce n'est pas nécessaire d'avoir tous les problèmes dans ta vie résolus avant de trouver Jésus. En fait, c'est l'inverse. Est-ce que c'est plus facile de résoudre les problèmes avec Jésus ou sans Jésus? Oh, c'est évident. Même si tu as des problèmes, notamment si tu as des problèmes, il faut trouver Jésus parce qu'il est la solution. On ne résout pas tous les problèmes avant de trouver Jésus. On trouve Jésus pour résoudre les problèmes. Il appelle ceux qui sont fatigués, chargés, troublés, ceux qui sont pauvres et nus et tristes et tout le reste. C'est eux que Jésus appelle. Donc si tu es en position de confort et richesse et tout ça, il faut comprendre que tu as besoin de Jésus. Et si tu es en condition de fatigue, si tu es chargé, fatigué, troublé, tu as besoin de Jésus. Il est la solution pour tout ça. Je viens. Matthieu chapitre 25, verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, il partit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui n'est pas dans cette parabole, c'est l'idée que l'homme de un talent, est-ce qu'il doit devenir un homme de 5 talents avant de trouver le Seigneur? Non. Le Seigneur l'a appelé, même, en fait, on peut dire tel qu'il est. Avec un talent, ça c'est sa capacité, ok? Il était appelé comme ça. Un homme d'un talent est appelé le même jour, la même manière de l'homme qui était appelé avec 5 talents, ou 2 talents, ou n'importe combien de talents. Tous les hommes sont appelés dans la même manière. Ils ont tous l'opportunité de servir le Seigneur exactement en égalité, même s'ils ne sont pas égaux en capacité. Il n'y a pas d'exigence de devenir un homme avec beaucoup de capacités avant de servir le Seigneur. Tu peux servir le Seigneur tel que tu es. N'importe si tu es pauvre, riche, intelligent ou non intelligent, éduqué, non éduqué, n'importe. Tu peux servir le Seigneur tel que tu es. Et tu n'es pas jugé comme quelqu'un avec plus de capacité, tu es jugé tel que tu es. Tu es jugé, est-ce que tu as bien utilisé ce que tu as et ce que tu es? Ça, c'est la question. Et ça, c'est le standard de jugement. Donc, tel que tu es. Bien vacillant. En fait, il y a une strophe en anglais qui dit en fait la même chose. Qui dit que quelqu'un est bien, en anglais, on dit « tossed about », c'est-à-dire... Tu es battu par tous les événements dans le monde. C'est l'idée de tossed about, c'est utilisé souvent d'un bateau sur la mer. Et il y a un orage qui arrive dans la mer. Et donc le bateau est en danger de couler. Ok. Le bateau est en grave danger de couler. Et donc ça c'est notre vie souvent. Nous sommes en danger de couler. Et en fait notre foi c'est comme ça souvent. Nous sommes battus par les événements. Il y a des doutes, il y a des questions, il y a des problèmes. Et je ne pouvais pas traduire ça. C'est C.S. Lewis, son anglais, est très, très élevé. Et je ne peux pas... Donc, je vais expliquer ce qu'il a dit. Pour ceux qui peuvent lire, c'est mieux que si vous pouvez lire. Mais je vais expliquer ce qu'il dit. Il dit que... On peut résumer. Il dit que le problème avec M. Lewis, il parle de soi-même. Et il dit, mon problème, c'est que... Quand je perds la foi, et c'est pas complètement perdu, c'est-à-dire j'ai des doutes. Il y a des gens, il y a des jours quand je pense que je ne suis pas sûr si Dieu est vraiment là. Est-ce qu'il est bien là? Est-ce qu'il répond à ma prière, aux prières que je donne à Dieu? Bon, je ne suis pas sûr. Et ça arrive souvent pour M. Lewis. Et il dit que souvent, il a le sens que prier à Dieu, c'est comme écrire une lettre et on le met dans la poste et on n'est pas sûr si l'adresse existe. Et donc, est-ce que la lettre va être bien livrée ou non? On ne sait pas. Ce sont les doutes que M. Lewis a avoué qui existent dans sa vie. Et on peut tous avouer que ça existe. Ce n'est pas d'honte d'avouer. Et donc, Charlotte, dans la chanson, elle dit, nous sommes bien vacillants. Nous avons des doutes, nous avons des questions, nous avons des jours quand nous ne sommes pas sûrs si Dieu est vraiment là. Est-ce qu'il a vraiment entendu mes prières? Est-ce qu'il existe vraiment? Et on peut avoir des doutes, mais en fait, on peut prier, Dieu, aide-moi. Aide-moi même dans mes doutes. Même dans mes jours, quand je ne suis pas sûr ce que je suis, je ne suis pas sûr de beaucoup de choses. Mais chaque jour, chaque fois nous sommes réunis, nous pouvons renouveler notre foi. Nous pouvons faire plus fort notre foi. Et nous pouvons trouver encore le Seigneur. Donc, quelles sont les sources des problèmes? Bon, il y a une grosse liste et probablement il y en a plus. Ce sont les causes de notre doute, de notre faiblesse en foi. Mais en fait, il y a un petit peu de conseils qui étaient donnés par Moïse. Il y a longtemps, Moïse a dit, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Le problème dans le contexte, c'est que l'Israël était à côté de la mer Rouge. Donc la mer Rouge est devant et l'armée d'Égypte était derrière. Et donc, on ne peut pas reculer et on ne peut pas avancer. Donc, que faire? Donc, on est en danger. Il n'y a pas de solution évidente pour les yeux d'homme. Mais Moïse dit, ne craignez rien. Parce que Dieu a la solution. Donc, pour tous les problèmes dans la vie, est-ce que Dieu a une solution? Oui, il y a une solution. Peut-être que ce n'est pas immédiatement visible. Et ça, c'est la foi. Si on ne peut pas voir quelque chose, mais c'est là encore, on croit quand même. Parce que ça, c'est la foi. Ne craignez rien. Restez en place. Et regardez la délivrance. L'Éternel va vous accorder en ce jour que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Voilà, c'est un bon conseil. Parce qu'il y a beaucoup de situations dans la vie quand ça, c'est la bonne réponse. Gardez le silence et attendez ce que Dieu va faire. Finalement, en conclusion, je vais ajouter une autre chose, c'est-à-dire tel que je serai. Pas tel que je suis, mais tel que je serai. En fait, cet verset, c'est mon favori, et ça n'existe pas dans la version anglaise, malheureusement. Ça, c'est la clé de beaucoup de choses dans ta vie. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est. Mais on ne reste pas là. Ce n'est pas la conclusion, ce n'est pas la fin. On continue. Pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, je viens. Romains chapitre 12 donne le même conseil. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Peut-être ces mots-ci viennent de cette verset, je ne sais pas. Mais en fait, le challenge pour nous, c'est que on peut bien arriver à Jésus tel que tu es, bien sûr. La Bible dit ça, sans doute. Mais la question c'est, est-ce que tu peux rester tel que tu es ou tel que tu étais, non? Tu peux venir tel que tu es, mais tu ne peux pas rester tel que tu étais. Il faut te transformer vers quelque chose de différent, vers quelqu'un de différent. Et Jésus peut t'aider à faire ça. Merci beaucoup.